Il est 8h.
Le message que j'ai est un message un peu d'abattement sur le rythme de l'arrivée des vaccins dans notre pays. Tout le monde est prêt à faire son travail et nous n'avons juste pas de vaccins.
Pas assez de doses au moment même où l'épidémie nécessite à nouveau des transferts de patients d'une région à l'autre. Paradoxe et lassitude sur le terrain. Un an de chômage partiel, 2 millions de salariés toujours pris en charge par ce régime et la crainte des entreprises concernées de perdre certains de leurs collaborateurs, ce sera notre dossier. Et puis Danone se sépare de son patron Emmanuel Faber et recrute un spécialiste des interrupteurs pour donner un électrochoc à l'entreprise. 8h15, l'invité politique de la matinale au micro de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il dénonce un Waterloo vaccinal. Mais qu'aurait fait précisément le Rassemblement National dans une telle situation de tension, notamment en Île-de-France? Notre invité, Jordan Bardella, vice-président du RN, député européen et tête de liste pour les régionales en Île-de-France. Rendez-vous à 8h15.
On vous retrouve tout à l'heure, Sonia. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h avec vous, François Geffrier, bonjour.
Bonjour, faisons ensemble un petit flashback. Il y a pile un an, les bureaux de vote ouvraient à cet instant dans toutes les communes de France pour le premier tour des municipales, 15 mars 2020. Le confinement sera annoncé le 16 et appliqué le 17, début alors d'une période totalement folle, historique, et qui nous amène aujourd'hui à cette campagne vaccinale qui patine. Plus on a de vaccins sur le marché, plus on a l'impression que les annonces de baisse de livraison de doses se succèdent.
Paradoxe renforcé encore avec les précisions d'AstraZeneca. Le laboratoire va fournir dans les 15 jours qui viennent encore moins de doses de son vaccin que ce que l'on pensait, Nicolas Feldman.
Oui, 300 000 doses au lieu des 2 millions annoncés. C'est près de 7 fois moins que prévu. Alors le laboratoire invoque des difficultés d'exportation. Et pour nos soignants, c'est un nouveau casse-tête. Prenez par exemple les 41 000 généralistes. Corinne Le Sauder, présidente de la Fédération des médecins de France, va devoir une nouvelle fois rationner ses doses.
Ça ne fera même pas un flacon par médecin pour 15 jours. C'est vraiment dérisoire. Et c'est malheureux parce qu'en fait, les médecins ont déjà pris des rendez-vous pour leurs patients. Et quand on va être obligé de les appeler pour leur dire qu'on ne peut pas les vacciner, ça va être un immense désespoir.
Et désespérés, les pharmaciens le sont tout autant. À partir de vendredi, tous auront le droit de vacciner. Mais dans ces conditions, le président des syndicats pharmaceutiques, Philippe Besset, redoute de devoir attendre un mois de plus, soit jusqu'au 9 avril, avant de pouvoir honorer tous ces rendez-vous.
C'est à partir de cette date-là que les vaccins, croisons les doigts, arriveront en nombre suffisant. Donc le message que j'ai est un message un peu d'abattement sur le rythme de l'arrivée des vaccins dans notre pays. Tout le monde est prêt à faire son travail et nous n'avons juste pas de vaccins.
Et de quoi mettre à mal l'objectif du gouvernement d'atteindre les 10 millions de Français vaccinés d'ici la mi-avril.
Les explications de Nicolas Feldman, les transferts de patients de l'Île-de-France vers d'autres régions vont s'accélérer cette semaine par avion ainsi que par des TGV sanitaires prévus dans quelques jours.
Devine qui vient ce soir à la maison ? C'est le Premier ministre.
Oui, il y avait eu François Hollande avec la cravate, mais sans masque. Il y a eu hier soir Jean Castex, sans cravate, mais avec le masque, dans la chambre de l'animateur Samuel Etienne.
Bonsoir Monsieur le Premier ministre.
Bonsoir Samuel.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci de m'avoir invité sur Twitch ce soir.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce que vous découvrez ?
Ah ben écoutez, c'est formidable, je ne connaissais pas, je vous le dis, je l'avoue. On me dit que j'ai un côté, vous savez, un peu vintage, que j'assume totalement, donc je découvre. Mais je vous avoue que je suis un peu stressé, non pas par le mode d'expression, mais parce que mes filles, elles, sont des habituées et elles m'écoutent ce soir. Je ne suis pas sûr, vous voyez, non, je ne suis pas sûr, par exemple, qu'elles suivent mes conférences de presse. Mais ce soir, elles sont là. Alors, voilà, il faut que je me tienne particulièrement bien.
Bonsoir Samuel. Le ton était posé, un peu différent d'une interview traditionnelle. Les questions ont défilé sur l'écran, posées par les membres du réseau social Twitch. Sur le plan sanitaire, il n'y a pas eu d'annonce.
Politiquement, Louis Dragnel, qu'est-ce qu'on retient de cette prestation du Premier ministre ?
Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Jean Castex nous a montré une image à laquelle il ne nous avait pas habitués. Seul, assis devant une fenêtre, sans cravate, dans le salon de Samuel Etienne face à des internautes. Le locataire de Matignon a été plutôt à l'aise dans cet exercice et a répondu à des questions variées allant des raisons de son arrivée à Matignon, au mal-être étudiant en passant par l'importance du remboursement de la dette, pour terminer sur sa confiance dans le vaccin AstraZeneca. Mais plusieurs bémols quand même. Tout d'abord, l'audience. L'émission n'a rassemblé que 80 000 personnes, soit beaucoup moins qu'une émission grand public à la même heure. Et puis la forme, si Jean Castex n'a éludé aucune question, il est resté très conventionnel en employant le même ton et les mêmes propos que lors de ses prises de parole habituelles. Après tout, comme il l'a dit lui-même à la fin de l'émission, son objectif était de faire de la pédagogie. Mais en observant les commentaires de plusieurs internautes déçus par cette posture, on finit par se demander si cet exercice a réellement un intérêt pour lui, s'il le reproduira, et finalement si ce type d'opération ne relève pas plus de la communication que d'une volonté de s'adresser à un nouveau public.
Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1, Jean Castex, qui reçoit aujourd'hui les syndicats et le patronat dans une sorte de visioconférence du dialogue social. Alors la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a été testée positive au Covid hier, mais devrait participer tout de même à distance. Il s'agit en fait de préparer la sortie de la crise et des aides publiques qui vont avec, car là aussi, il y a eu du jamais vu cette année écoulée. Le chômage partiel, par exemple, déployé massivement. Nous avons voulu ce matin faire un bilan.
Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Est-ce qu'on sait combien de personnes cela représente?
Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'en janvier dernier, un peu plus de 2 millions de salariés français étaient encore au chômage partiel, c'est-à-dire 1 salarié sur 10. Ce sont les derniers chiffres dont on dispose. Le pic a été atteint en avril dernier, avec plus de 8 millions de personnes concernées. Cet été, les niveaux étaient redescendus au plus bas, quand les bars et restaurants avaient pu rouvrir. Ce secteur est en effet celui qui a le plus recours à l'activité partielle. Près de 60% de ces salariés sont à l'arrêt. Ils touchent à minima 84% de leur rémunération nette, un dispositif qui va durer au moins jusqu'en avril prochain.
Alors justement, vous avez rencontré pour Europe 1 un homme dans la restauration et cela fait un an qu'il n'a pas travaillé en cuisine.
Oui, il s'appelle Ahmed, il n'a pas travaillé une seule journée depuis le 15 mars 2020 et je peux vous dire qu'à 36 ans, il a pris conscience de l'importance de son travail.
C'est l'équilibre en fait, c'est voilà, se lever pour quelque chose parce que là on se lève, pourquoi, je sais pas, on essaie de trouver un truc à faire. C'est le lien social, on aime ce métier. C'est presque qu'on aime plus encore le boulot.
Alors évidemment, au cours de cette année de chômage, un certain nombre de salariés se sont remis en question. Résultat, le patron d'Ahmed, Alain Fontaine, s'attend à une importante déperdition de ses troupes au moment de la reprise. Sur ses 23 salariés, 20 sont au chômage partiel.
Je sais qu'il y en a que je ne reverrai pas, parce que leur vie a changé. Au bout d'un an de réflexion, ils se sont dit « mais attends, je peux avoir mes soirées, je peux avoir mes week-ends ». Ils ont peut-être pris d'autres pistes. Et ça, c'est le problème de toute la restauration française.
D'autres pistes, Élise, est-ce que ça signifie que des salariés pensent en fait à une reconversion?
Absolument, certains ont même déjà changé de voie, d'autres y songent. C'est le cas d'Emeric, designer de stand pour les foires et salons. Il n'a travaillé que quelques jours sur l'année écoulée et il a profité de ce temps libre pour se former à l'intelligence artificielle.
Moi, à 43 ans, oui, je me suis dit « je vais me reconvertir ». Après, c'est pas l'âge le plus facile, mais bon, je suis assez souple, j'arrive à m'adapter à beaucoup de choses. Après, moi, je suis quand même dans un métier que j'adore. Je suis tombé dedans il y a 15 ans à peu près. Je me vois mal faire autre chose, donc c'est vrai que j'ai quand même gardé espoir grâce à ça. Et c'est ça qui me fait tenir, quoi.
Alors, vous l'aurez compris, hein, Emeric n'est pas encore prêt à sauter le pas, mais il a tout de même trouvé la parade.
Mais c'est un vrai sujet d'inquiétude pour les chefs d'entreprise, Élise.
Oui, mais ce qui inquiète le plus, ce sont les décrocheurs. Selon Fabrice Laborde, le patron du groupe Galis, où travaille Emeric qu'on vient d'entendre, un quart de ses salariés a complètement disparu dans la nature. Il ne participe plus aux réunions d'information, n'appelle plus, et le PDG avoue être un peu désemparé.
On est une entreprise qui a connu la croissance, et nous, on a géré le trop-plein de travail. Toute notre vie professionnelle, on a géré ça, l'embauche, et on s'est formé à ça. On n'a jamais été formé finalement à gérer la carence et le vide. Et là, on s'est retrouvé quand même à gérer psychologiquement l'absence de travail, l'absence d'activité et l'absence de se réunir. Je vous avoue qu'on a eu quelques faiblesses là-dessus. Donc, on a fait avec les moyens du bord. On réunit assez fréquemment, toutes les semaines ou tous les 10 jours, par équipe, par service, nos collaborateurs. Alors, évidemment, de manière virtuel. On essaye de donner le maximum d'informations, mais enfin, on n'a pas non plus énormément d'informations, et de créer et de garder le lien.
Voilà, et ce que craignent aussi les patrons, c'est de retrouver du personnel qui aura perdu en compétences, mais aussi en confiance en soi.
Dossier signé Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Je retiens ce chiffre que vous nous donniez à l'instant, 2 millions de salariés, 1 sur 10 hein, au total, qui sont toujours au chômage partiel. De son côté, l'Italie se confine pour la troisième fois. Les trois quarts de la population est concernée. Encore à l'étranger, ce bilan en Birmanie, un mois et demi après le coup d'état militaire, au moins 44 manifestants pro-démocratie tués hier par les forces de sécurité, chiffre donné par une ONG locale.
8h09 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. Danone face à l'avenir, le groupe se sépare finalement de son patron iconoclaste Emmanuel Faber. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Il était en sursis, cette fois c'est fini pour Emmanuel Faber chez Danone. Déjà rétrogradé il y a deux semaines, l'ex-PDG du géant alimentaire a été débarqué hier soir par le conseil d'administration et sera remplacé par Gilles Schnepp, venu du groupe Legrand.
Emmanuel Luteil, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'en perdant ce patron atypique, Danone peut rester une entreprise atypique?
Eh bien chez Danone, on promet que oui, un proche de la direction l'assure, le modèle unique d'entreprise à mission doit être respecté. C'est-à-dire que les engagements sociaux et environnementaux doivent être au moins aussi importants que la performance économique. Alors pourquoi écarter Emmanuel Faber qui incarnait cette ambition? La réponse en interne est simple, il avait une vision mais ce n'était pas un bon manager. Il paie donc les départs à l'automne de cadres de haut niveau. C'est une réponse aussi aux fonds activistes qui demandaient son éviction. Il ne voulait pas être que président non exécutif, il ne lâchait rien au quotidien. Les problèmes de gouvernance étaient trop importants, explique un proche de la direction. Et c'est pour cela que le conseil d'administration mise maintenant sur Gilles Schnepp, l'ex-patron de Legrand, le numéro un mondial des interrupteurs, ne connaît rien à Danone, mais c'est une référence mondiale en matière de gouvernance, dit-on en interne. Charge à lui de trouver rapidement un numéro 2 de classe mondiale, selon le cahier des charges interne. Et même si officiellement ce numéro 2 devra respecter l'esprit de Danone, il faudra bien qu'il mette sur pied un plan pour rendre Danone aussi rentable que ses concurrents, ce qui pourrait annoncer des lendemains difficiles.
Emmanuel Duteil, qui est bien le numéro 1 du service économie d'Europe 1.
Là aussi, il est question d'entreprises différentes et malmenées par la conjoncture. C'est une papeterie, une usine, la seule en France à produire du papier 100% recyclé.
Le site Chapelle d'Arblay, totalement arrêté, mis en vente et menacé de démantèlement, à tel point que la socialiste Anne Hidalgo jusqu'à l'ex-premier ministre Édouard Philippe se mobilise, une soixantaine d'élus, aussi pour les ouvriers que Damien Mestre a rencontrés.
C'est toujours des moments un peu difficiles, on n'a qu'une hâte, c'est que ça fasse du bruit, que ça redémarre.
Cyril fait partie des trois derniers salariés de l'usine, après le licenciement des plus de 200 autres l'été dernier. L'usine est une usine fantôme, seuls quelques pigeons viennent s'y abriter, mais les machines, elles, sont toujours prêtes à redémarrer en cas de reprise. Elles produisaient du papier recyclé en quantité astronomique, explique Arnaud Doxer, représentant des cadres.
On rayonnait principalement à 350 km autour de l'usine. La majorité des déchets papier de l'Île-de-France étaient collectés et étaient recyclés sur l'usine et étaient acheminés par voie fluviale vers l'usine.
Le temps presse, les salariés n'ont que 3 mois pour trouver un repreneur. Pourtant, l'enjeu est national, selon Nicolas Maillère-Rossignol, président de la métropole de Rouen.
Quand vous êtes chez vous, vous essayez d'être vertueux, vous recyclez, mais si vous n'avez pas une usine derrière, qu'est-ce qui va se passer? Derrière, le papier il va être enfoui. C'est ça qu'on veut. Au 21e siècle, on va aller brûler du papier? On va aller l'envoyer en Allemagne ou en Belgique? C'est absurde.
3 dossiers sérieux de reprise seraient actuellement à l'étude. Mais selon les salariés, il faut encore convaincre le propriétaire d'accepter ses offres. Faute de quoi l'usine sera définitivement démantelée. À Rouen, Damien Mestre, Europe 1.
Le bilan de la soirée footballistique d'hier. 2-1 pour Nantes face au PSG et 2 cambriolages pour les Parisiens. Marquinhos et Di Maria, dont les domiciles ont été visités pendant la rencontre de Ligue 1. Di Maria a même été remplacé sur le terrain quand il a appris la nouvelle.
Oui, c'est vrai que c'est un synonyme pour cambriolage. On a été visité. On dit ça comme ça. François Geffrier, merci beaucoup. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et dans quelques toutes petites secondes, l'interview de Sonia Mabrouk avec Jordan Bardella, eurodéputé Rassemblement National et candidat au régional en Île-de-France.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jordan Bardella, député européen du Rassemblement National et tête de liste pour les régionales en Île-de-France.
Une chose après l'autre. Bienvenue à vous. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Transfert de patients pour soulager les services de réanimation, déprogrammation d'opérations en Île-de-France. L'exécutif tente de tenir sur un chemin de crête pour éviter le reconfinement. Est-ce la bonne stratégie ?
On voit bien qu'on n'est pas tant sur un rebond épidémique en soi qui est plutôt stable. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un plateau, même si les indicateurs augmentent très largement. Mais on voit bien qu'on est dans une crise de capacité hospitalière. Mon département de la Seine-Saint-Denis, qui a 1 600 000 habitants, a, rendez-vous compte, 100 lits de réanimation. Moi, j'entendais le docteur Kierzek de l'hôpital Dieu, qui est médecin urgentiste, indiquer qu'entre les gens qui entraient chaque jour en réanimation et les gens qui sortaient, il nous manquait en moyenne une 50aine de lits par jour. Donc on voit bien qu'on a été sous sous-dotés pendant des années, qu'on paye le sous-investissement constant et la suppression de lits. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2018, supprimait 4500 lits dans l'hôpital
public.
Mais
aujourd'hui, que fait-on ?
Et que on est en train de payer le fait que depuis un an, alors que nous sommes dans une crise épidémique majeure, le gouvernement n'a rien fait pour empêcher la paralysie et que nous avons les mêmes capacités hospitalières qu'il y a un an.
Donc, vous savez ce que vous répondent la plupart des spécialistes, Jordan Bardella, qu'il faut malheureusement beaucoup de temps pour créer ces lits, pour former les personnels justement à la gestion de ces lits ?
Certes, mais nous avons procédé au mois de septembre, et le gouvernement a procédé au mois de septembre à la suppression de lits de réanimation, de lits qui avaient accueilli des patients Covid. Je pense notamment à la cinquantaine de lits de l'hôpital de Juvisy dans l'Essonne, en Île-de-France, qui ont donc été supprimés. Donc, dans l'immédiat, il faut recourir massivement et autant que nous le pouvons aux cliniques privées. On se souvient qu'au printemps dernier, il y a eu une véritable cacophonie.
Et est-ce qu'on le fait suffisamment ?
On ne peut pas. Ah bah, écoutez, moi j'ai entendu il y a une dizaine de jours le président de la Fédération de l'hospitalisation du privé indiquer qu'il pouvait, que le privé, que les cliniques pouvaient en tout cas accueillir jusqu'à 20 à 30% d'admissions en réanimation en plus. Donc, on voit bien que tout n'a pas été en tout cas mis en œuvre.
Qu'est-ce qui bloque ? Attendez, on fait quand même des transferts de patients qui sont dans des situations parfois extrêmement compliquées et délicates, et vous nous dites qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur le privé. Qu'est-ce qui bloque ?
Écoutez, c'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre de médecins, à commencer par les responsables eux-mêmes des cliniques privées. On se souvient que lors du premier confinement au printemps dernier, alors que les hôpitaux publics étaient saturés, les cliniques étaient vides. Donc, comment peut-on concevoir des transferts de patients qui ressemble plutôt à des opérations de com, parce que le bon sens voudrait plutôt qu'on fasse venir à la fois du personnel hospitalier et du matériel vers les zones de tension, plutôt que ces opérations qui sont extrêmement coûteuses, qui sont faites dans des TGV classiques et qui demandent énormément de moyens. Donc il faut...
Mais comment faire aujourd'hui avec ces capacités-là ? Maintenant qu'on a ces capacités, quelle alternative, monsieur le député européen ? L'Italie reconfine dans l'urgence ce lundi, l'Allemagne voit le nombre d'infections exploser, l'Espagne durcit très sévèrement les restrictions. Que faire ?
Le point commun entre tous les pays que vous venez de citer, c'est que ces pays appartiennent à l'Union européenne. Et que les ratages absolument dramatiques de l'Union européenne en matière vaccinale sont évidemment criminels. Parce que moi, j'entends parler de passe sanitaire, j'entends parler de passe vaccinale, alors même que nous avons vacciné à peine 7% de la population européenne. Et que le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de vaccin.
Vous
et
savez que... combien la Russie a vacciné ?
Et que... Bah, dites-le-moi.
Non, la Russie, par exemple, c'est hors... on est d'accord.
Oui.
Très très peu.
Oui, mais la Russie a un territoire
extrêmement
qui est...
peu.
Oui, mais la enfin je non, pense pas
si
que la situation
non exemples.
Non mais je pense pas que la situation russe soit similaire à la situation française. La Russie est un territoire gigantesque où évidemment la densité urbaine la densité urbaine est beaucoup plus faible. Si vous voulez prendre un pays en termes de composition qui peut peut-être être équivalent en termes de concentration urbaine, Israël par exemple ou le Royaume-Uni qui est hors de l'Union européenne a vacciné 20 millions déjà d'habitants de sa population.
Israël, Jordan Bardella qui ont échangé les vaccins contre des données. Vous l'auriez fait ?
Non, mais il ne s'agit pas d'échanger des données contre des vaccins.
Attendez, c'est
mais
comme ça qu'ils ont
juste...
eu plus de vaccins.
Non, mais regardez,
est-ce que vous
je
auriez
dis juste
échangé
que,
les données ?
Aujourd'hui, l'Union européenne, et c'est vrai, a raté totalement les commandes de vaccins, qu'elle a totalement été opaque dans les négociations, et fait qu'aujourd'hui, on est la risée du monde, on subit une véritable débâcle vaccinale, et cela a évidemment des conséquences à la fois sur notre situation sanitaire et sur la reprise économique. Maintenant... Il y a des pays qui se débrouillent. Voilà, il y a des pays qui trouvent des alternatives. L'Autriche est en train de développer un partenariat commercial avec Israël pour récupérer notamment des vaccins qui ne seraient pas utilisés. Je vois que la Hongrie s'est tournée vers la Russie, que la Pologne s'est tournée vers la Chine afin de pouvoir acheter directement des vaccins. Or, la France ne fait rien de tout cela. Donc, on a le sentiment qu'on est paralysé, que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on attend des choses de bon sens, à savoir l'autorisation pour les pharmaciens de vacciner. Eux-mêmes le disent, on peut vacciner 400 000 à 500 000 personnes.
Et vous avez
par jour,
dénoncé.
Ça n'est pas fait.
Vous
développer
dénoncé...
massivement les autotests et évidemment recourir autant que possible au privé parce qu'on
vous
ne peut pas,
dénoncé,
si vous voulez,
attendez, Jordan Bardella,
évoquer un reconfinement
un
alors
Waterloo...
même que les lits dans les cliniques privées sont vides.
Vous avez dénoncé un Waterloo vaccinal en ce moment, mais est-ce que ça peut se transformer en victoire d'Austerlitz d'ici à la fin de l'été ?
Écoutez, je le souhaite. Moi, je souhaite.
Pardonnez-moi, vous êtes défaitiste à l'instant T, mais si à la fin de l'été.
Je ne suis pas défaitiste, c'est la situation qui est défaitiste, madame.
Waterloo, c'est quand même la défaite.
Oui, mais quand on voit aujourd'hui, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais.
Si tous les Européens, dont les Français, sont vaccinés d'ici à l'été, est-ce que vous diriez que c'est finalement Austerlitz et que ce serait peut-être une victoire pour nous tous ?
Mais écoutez, je ne vais pas me réjouir de cette situation. Évidemment qu'on veut tous s'en sortir. Et évidemment que, comme vous et comme nos compatriotes, je souhaite qu'on puisse se sortir au plus vite de cette crise. Parce que chaque minute qui passe, Chaque vaccin qui n'est pas livré, c'est une entreprise qui met la clé sous la porte. Voilà, et c'est une entreprise qui a de plus en plus de mal à faire face à un PGE qu'ils auront du mal à rembourser, à faire face à des charges qui sont exponentielles et dont beaucoup, et je pense notamment à nos restaurateurs, ne voient plus le bout du tunnel. Donc, il faut pouvoir évidemment aller assez vite sur le développement des autotests et
vacciner.
En réalité, il faut
vacciner. Est-ce que vous le diriez ?
Mais je le dirais, bien sûr, je le dirais. Je montrerai l'exemple si nécessaire.
Ah, vous montreriez
lorsque
l'exemple.
Je le pourrais.
Parce qu'il y a quelques mois, j'ai retenu votre phrase, Jordan Bardella. Lorsque j'estimerai avoir été rassuré, peut-être que je me ferai vacciner.
Oui, et je disais cela dans une période. Vous aviez reçu d'ailleurs, je crois, quelques jours avant Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer, qui dénonçait l'opacité dans laquelle se faisaient les négociations. Ou même Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, n'était pas franchement très rassurant sur la vaccination. Donc évidemment que la vaccination est une porte de sortie majeure. On voit qu'en Israël, la large vaccination de la population a permis, encore une fois, ce sont des faits, ce week-end en tout cas, de remettre en place des concerts, des matchs, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir ouvrir les centres commerciaux. Mais quand on voit aujourd'hui la manière dont cela est géré au niveau européen, on se dit qu'on aurait peut-être mieux fait de négocier directement avec les laboratoires. Et pardon, on paye aussi l'abandon de notre souveraineté. La France est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de vaccin.
Attendez,
mais quand Moderna a eu 5 milliards d'euros...
Nous recevrons dans quelques jours le patron de Sanofi à votre place. Ils sont en train de développer un vaccin. Soyons optimistes, on ne sait jamais avec une technologie aussi. Est-ce que
oui, mais on voit bien que la technique initiale, qui était la technique classique de vaccination, a été abandonnée au profit de l'ARN messager et qu'aujourd'hui, le rythme de vaccination actuel, pour répondre à votre question, ferait que nous serions sortis de crise en juin 2022 d'après Covid Tracker. Donc il faut évidemment accélérer. Et moi, je vois que l'Italie, vous citiez l'Italie, organise sur son territoire, des usines pour pouvoir produire notamment le vaccin Sputnik. Or, on s'est interdit de se tourner vers la Russie pour des raisons bêtement idéologiques.
Revenons à l'Île-de-France, Jordan Bardella, et au sujet de l'insécurité. C'est l'un des sujets majeurs des élections régionales avec les rixes entre bandes, la violence des plus jeunes. Hier encore, une policière menacée et agressée à Champigny-sur-Marne. Et vous jugez que la présidente de la région, Valérie Pécresse, a eu la main molle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça alors que, par exemple, elle veut notamment rendre obligatoire les polices municipales armées ?
Oui, mais lorsqu'elle était ministre du budget sous Nicolas Sarkozy, elle a participé de la suppression des 12 500 postes de policiers et gendarmes qui font évidemment défaut aujourd'hui en Île-de-France. Donc si vous voulez, c'est bien aujourd'hui de pleurer sur le lait renversé. Maintenant, si j'étais président de la région Île-de-France, c'est une mesure que nous avons proposée, que nous allons budgéter, eh bien nous doterions, encore une fois dans le cadre des compétences de la région, chacune des gares de la région Île-de-France, à la fois des stations de métro et des gares RER, de deux agents de sécurité armés qui permettraient évidemment d'assurer la sécurité dans les gares, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la région a compétence à la fois des transports et des lycées, et que ce sont des points d'insécurité extrêmement majeurs. On voit bien aujourd'hui que l'État a failli, voilà, et qu'il n'y a qu'un État en faillite qui laisse aujourd'hui dans notre pays des bandes s'affronter dans l'impunité générale, des policiers, comme c'était le cas de cette policière à Champigny, qui a été étranglée dans l'impunité, et ces gens-là le font parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Donc, il faut un tour de vis en matière pénale, et il faut aujourd'hui réarmer matériellement, humainement et moralement nos forces de l'ordre.
C'est intéressant ce que vous dites, réarmer même matériellement. Pourtant, le Rassemblement National a toujours refusé, Jordan Bardella, de voter le programme du bouclier de sécurité pour financer dans la région Île-de-France la vidéosurveillance, les équipements des commissariats, bref, pour mieux lutter contre l'insécurité.
Non, c'est faux. Nous avons voté au cas par cas un certain nombre de ces dispositifs.
Mais pas l'ensemble.
Et nous nous sommes abstenus sur le texte dans son ensemble parce qu'on voit bien que les collectivités aujourd'hui sont en train de pallier l'incapacité de l'État
c'est
à
déjà
assurer
ça.
Ses
Pourquoi
missions.
Ne pas déjà voter cela ?
Et quand j'entends, si vous voulez, non mais moi je suis extrêmement... quand j'entends, si vous voulez, le candidat de M. Macron, qui est candidat de La République En Marche aux élections régionales en Île-de-France, expliquer qu'il faut maintenant mettre en place des sociétés privées,
oui.
Des sociétés privées à qui on confierait la sécurité et des missions régaliennes de l'État, enfin, je veux dire, ces gens-là sont des liquidateurs. C'est-à-dire qu'on confie à la fois notre politique vaccinale à l'Union européenne, on confie les missions de l'État à des sociétés privées, on brade tout à la découpe, et donc, je veux dire, il n'y a qu'un État en faillite qui laisse faire cela. Donc, si nous arrivons aux responsabilités, que ce soit dans les régions ou que ce soit à la tête du pays en 2022, eh bien, nous remettrons de l'ordre et nous rétablirons l'autorité de l'État, parce que je crois que c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos compatriotes. Et pour cela, il faut évidemment soutenir nos policiers et effectuer un tournant en matière pénale. Voilà, fini le laxisme, fini l'impunité et tolérance zéro avec les voyous et les criminels.
Invité à réagir, Jordan Bardella, à ceux qui la qualifient de xénophobe, Marine Le Pen a rejeté vigoureusement de telles accusations, ajoutant, je cite, ce sont ses mots, « Quand vous voyez que je suis arrivée en tête aux Européennes en Outre-mer, vous vous rendez compte que ces accusations de xénophobie n'ont aucun intérêt, dit-elle. Mais la xénophobie, nous sommes d'accord, vous et moi, c'est le rejet de l'étranger. Est-ce que les Français ultramarins sont étrangers à
non,
vos yeux ?
Non, pas du tout, mais elle a commis un petit lapsus. Et d'ailleurs,
BFM TV
lui a permis de s'en expliquer. Nos concitoyens l'ont parfaitement compris. Elle disait simplement, si vous voulez, que les accusations de racisme, qui sont encore utilisées, mais de manière dérisoire par quelques opposants politiques, n'ont pas lieu d'être
le
quand
racisme,
on voit que
c'est la couleur
chaque
de
élection.
Peau. La xénophobie, c'est le rejet de l'étranger.
Exactement, mais elle a commis un petit lapsus. Elle s'est rectifiée quelques minutes plus tard. BFM TV lui a permis de s'expliquer, parce que tout le monde a bien compris que c'était un petit lapsus. Et elle disait simplement qu'elle est extrêmement attachée à l'outre-mer. Et quand on voit effectivement les scores qu'elle réalise en outre-mer, je vous rappelle que nous sommes arrivés en tête en outre-mer à la fois lors des élections présidentielles et à la fois lors des élections européennes. Eh bien, on voit bien que ces accusations de racisme, qui sont encore utilisées par quelques militants de gauche et d'extrême gauche, n'ont absolument aucun sens. Et que notre projet, en tout cas, est de rassembler tous ceux qui se reconnaissent aujourd'hui dans la citoyenneté, la nation française, sans distinction de race, d'origine ou de religion. Et je vous remercie de me permettre de le préciser.
Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h28, dans un instant, l'info avec Marion Calais, la météo de Laurent Cabrol, à tout de suite.
Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info, Marion Calais.
Une défaite 2-1 contre Nantes et deux cambriolages, le bilan de la soirée pour les joueurs du PSG. Et Guillaume Bié, des malfaiteurs ont profité du match des Parisiens pour s'introduire chez eux et chez des proches.
Oui, les deux cambriolages ont eu lieu à la même heure, juste après le coup d'envoi chez Angel Di Maria. Le ou les voleurs se sont introduits par effraction, sans éveiller l'attention de ses proches qui n'ont rien entendu. À l'étage, le contenu d'un coffre a été dérobé. Le montant exact du préjudice est en cours d'évaluation, mais la première estimation est de 500 000 euros de bijoux et de montres volées. C'est après coup que la famille du joueur s'en est aperçue et a donné l'alerte. Concernant le Brésilien Marquinhos, c'est la maison de son père qui a été visée. Deux malfaiteurs ont tout simplement sonné à la porte vers 21h. Le père du joueur a ouvert sans s'inquiéter. Il a aussitôt été bousculé, un peu molesté mais pas blessé. Avec ses deux filles, il a été retenu dans une pièce pendant que les voleurs ont fait le tour de la maison et emporté des vêtements et des sacs de luxe. La famille a prévenu la police juste avant la mi-temps du match. Dans les deux affaires, c'est la police judiciaire qui mène l'enquête.
Les précisions de Guillaume Bié pour Europe 1.
Mais il voulait reprendre une vie commune avec son ex-compagne, mais il a fini par la tuer avant de se suicider. Ça s'est passé hier à Forchvillers, en Moselle. Les deux corps ont été retrouvés par le GIGN qui avait lancé l'assaut.
Cloîtrer les Franciliens à la maison, un scénario que le gouvernement espère toujours éviter. Et pour ça, les transferts de patients vont s'accélérer cette semaine.
Une centaine de malades du Covid devraient être évacués vers d'autres régions pour tenter de faire baisser la pression qui pèse sur les services de réanimation à l'hôpital. Dans le même temps, même s'il n'a rien exclu hier soir, Jean Castex a réaffirmé la stratégie gouvernementale autour des tests et des vaccins.
Une vaccination qui passe notamment par la mise en place de grands centres éphémères. Et c'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de juin, à Marseille, le Vélodrome devient un vaccinodrome. Reportage de Stéphane Frangy pour Europe 1.
C'est tout un symbole. Les marins-pompiers investissent le stade, mais pas question pour l'heure de monter leur tente dans les vestiaires ou sur la pelouse, selon le contre-amiral Patrick Augier.
Non, pas encore. On pourrait peut-être des tentes, mais il y a tellement de locaux très intéressants pour nous dans le vélodrome.
Et c'est justement ce qui intéresse les autorités de grands salons et différents accès qui permettent d'organiser une circulation rapide une fois à l'intérieur. Et puis surtout, fixer un rendez-vous au vélodrome, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à Marseille.
Ça nous paraît très intéressant d'aller là-bas parce qu'en fait c'est très central et il y a une proximité des transports en commun et ce qui permettra aux Marseillais de venir assez facilement. On espère y faire très rapidement 1000 vaccins par jour, 6 jours sur 7. Ce qui est intéressant avec le vélodrome en même temps, c'est de concentrer au même endroit des pôles de vaccination où tous les professionnels pourront venir. Notre ambition, c'est de monter très rapidement à plus de 2000 vaccins par jour. Augmenter la cadence parce qu'en fait c'est le moyen de se sortir de cette épidémie.
Et une montée en puissance qui reste bien sûr dépendante de l'arrivée des vaccins. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Et en attendant les effets des campagnes de vaccination, l'Italie se reconfine à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 avril. Bars, restaurants, musées, écoles fermées dans plus de la moitié des régions. Malgré les difficultés des derniers mois pour les Bleus, ils restent fidèles au rendez-vous. Les handballeurs français se sont qualifiés pour les JO de Tokyo hier. 8e participation consécutive depuis les Barjots en 1992.
Merci Marion Calais. C'était le journal de 8h30 à 8h34. Nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Et au début du mois, je vous disais, gardez votre doudoune, ça peut servir pour ce mois de mars. Eh bien, hélas, ça semble se confirmer. Ça se confirme en tout cas pour quelques jours, les jours qui arrivent. Jusqu'à samedi, dimanche, il fera encore particulièrement froid. Samedi, dimanche, nous aurons des gelées sur la plupart des régions. Et puis la suite ne s'annonce pas pour l'instant d'après ce que l'on peut voir, ça n'annonce pas folichon. Hein, ça restera quand même assez froid dans l'ensemble. Donc, vous voyez que ce mois de mars va se poursuivre un peu de la même veine que cette semaine. Avec à la clé aujourd'hui et demain des giboulées en tout genre. Il y en a pour tous les goûts. Et si vous voulez un petit peu de répit, vous allez vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Bordelais. Vous y habitez. Et là, vous aurez un peu plus de chance d'avoir des éclaircies. Dans le sud-ouest et dans le Limousin, les giboulées seront un peu plus espacées. On appelle ça des giboulées ponctuelles. Et puis en Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, région Rhône-Alpes, Cévennes, là, elles seront particulièrement serrées et particulièrement présentes. Donc, vous voyez que c'est une journée quand même dans l'ensemble assez agitée. Température maximale entre 10 et 17 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Prenons soin les uns des autres sur Europe 1 tous les matins. Notre santé par exemple avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et je vais vous parler ce matin d'une des pathologies les plus fréquentes, la migraine. Et pour la soigner, je vous propose de pratiquer tout simplement de l'activité physique.
Notre planète avec Fanny Agostini et Nicolas Canteloup pour la revue de presse avant 9h. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
J'aime bien dire bonjour docteur, ça vous pose un Jimmy Mohamed comme ça le matin. Soyez le bienvenu, on prend soin les uns des autres tous les jours avec vous, notre santé. Et nous parlons d'une pathologie très très fréquente, la migraine.
Exactement. Alors c'est une des maladies les plus fréquentes en France. Elle concerne 20% de la population, avec trois fois plus de femmes que d'hommes qui sont touchés. Et c'est une vraie maladie, puisque quand on parle de migraine, on a l'impression que c'est un truc qui n'est pas méchant. Pourtant, l'OMS classe la migraine parmi les 20 pathologies avec le plus fort impact sociétal. Et pour illustrer ça, dites-vous qu'en France, la migraine est responsable de 20 millions de journées d'arrêt maladie par an. C'est absolument énorme, donc il y a un véritable impact. Alors, pour bien rappeler ce que c'est qu'une migraine, parce que souvent on confond un simple mot de tête avec une vraie migraine. Pour être migraineux, il faut avoir une répétition de crise, au moins 5, avec des maux de tête qui vont durer assez longtemps, entre 4 et 72 heures, qui vont toucher la moitié du crâne, et on dit qu'elles sont pulsatiles, c'est-à-dire que ça lance. Vous avez l'impression que votre cœur bat dans la tête. C'est accompagné de nausées et parfois même de vomissements. Vous êtes gêné par la lumière et par le bruit, et puis le fait d'avoir une activité de marcher va aggraver vos douleurs. Et au contraire, le fait de dormir et de vous allonger, eh bien, ça va la soulager. Et à ce moment-là, il suffit de prendre un anti-inflammatoire, donc un médicament de la famille de l'ibuprofène, l'aspirine tout simplement.
Et si les traitements classiques, on va dire, ne fonctionnent pas, il suffirait de faire du sport pour améliorer ces migraines ?
Eh oui, c'est une étude qui a été publiée justement dans l'Académie de neurologie américaine. Alors, l'étude elle est intéressante puisqu'on se rend compte que 2/3 des migraineux ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique. Vous allez dire, mais quel est le rapport ? Vous allez voir que c'est tout simple. Dans cette même étude, on s'est rendu compte que les patients qui pratiquent 2h30 de sport par semaine font moins de migraines que les autres. Alors encore une fois, vous allez me dire, mais quel est le lien entre le sport et la migraine ? Pour bien vous rappeler les choses, n'oubliez pas que la migraine, il y a souvent un caractère héréditaire. Si vos parents sont migraineux, vous avez plus de risques d'être vous aussi migraineux. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des facteurs déclenchants. Lorsque vous êtes stressé, si jamais vous avez de l'angoisse, si jamais vous manquez du sommeil, eh bien vous pouvez déclencher des crises de migraine. Or, en faisant du sport, vous allez synthétiser des molécules, notamment des endorphines. Ces endorphines vont réduire le stress, la fatigue, vous allez mieux dormir et par conséquent, vous allez soulager vos migraines. Et c'est par ce biais-là que l'activité physique est bonne pour les maux de tête et devrait faire partie du traitement de la migraine avant même les médicaments. Et si jamais vous n'êtes pas migraineux, faire 2h30 de sport, malgré tout, c'est aussi bon pour la santé.
Oui, ça reste bon quoi qu'il arrive. Et vous disiez que parfois la migraine peut être aggravée en marchant. Si c'est le cas, courez. Non, j'ai pas compris.
Vous avez tout compris, je valide.
Et dans son rendez-vous aujourd'hui à 15h, le cœur, les artères, les veines, comment les protéger ?
Avec le professeur Nicolas Danchin, vous allez voir, il est hyper cool, c'est un de mes cardiologues préférés, donc je vous recommande d'être là, parce que juste pour ça, c'est le meilleur argument que je peux vous donner.
Il n'y a que Jimmy Mohamed qui peut avoir un cardiologue préféré. Moi, j'ai préféré le dernier album, pardon.
Chacun son truc.
Jimmy Mohamed, notre santé, et son rendez-vous de 15h à 16h avec Mélanie Gomez. 8h40 sur Europe 1, notre planète, avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous nous parlez ce matin de l'importance d'avoir un balcon, avec l'idée d'en rajouter même quand on n'en a pas.
Ben oui, imaginez-vous, paf, d'un coup apparaît un balcon, d'un coup de baguette magique. Je vous parle en fait d'un balcon amovible qui se suspend aux façades des immeubles. C'est l'idée qu'a eu un jeune architecte, Alexandre Sauger. Il a imaginé une sorte de boîte en bois qui peut facilement se clipser au mur avec des claustras pour laisser passer la lumière, tout en étant à la fois très solide et supportant un poids de 600 kg par mètre carré. Rajouter un balcon est une façon effectivement de limiter cette sensation d'exiguïté des appartements, d'étouffement ou de claustrophobie en période de confinement, et tout simplement d'avoir un espace de vie plus agréable au quotidien.
C'est fascinant. 600 kilos au mètre carré, en plus on a un peu de marge. C'est même aujourd'hui une C'est même aujourd'hui une revendication formulée par des architectes, écoutez bien, qui réclament un droit au balcon.
Oui, en quelque sorte, le balcon pour tous. En ville, cet accès, rappelons-le, est très inégal. Seulement, aujourd'hui, les appartements moins bien dotés devraient, pour ne pas dire, doivent offrir cette extension vers le grand air. Colette Le Bourdonnec, architecte à l'agence nantaise L'Atelier du Lieu, milite d'ailleurs pour garantir que chaque appartement des bâtiments d'habitat social ait un accès privatif à l'extérieur. Un droit au balcon, donc, qui ne doit plus être un privilège, mais une nécessité pour le bien-être des personnes. L'idée est donc de systématiser le balcon et d'en rajouter sur les bâtiments qui en sont dépourvus.
Et pourquoi est-il si difficile de rendre les balcons systématiques ?
Alors, la tarification actuelle fait qu'il n'est pas très rentable en fait pour les bailleurs de faire construire des balcons. C'est surtout les jolis mais coûteux appartements haussmanniens qui en ont, ou les appartements plus récents pour lesquels le balcon est un moyen de se démarquer auprès d'une clientèle plus aisée. Et vu que les logements sociaux sont conçus pour maximiser l'espace et minimiser le coût, le balcon n'est pas exactement la priorité. C'est là que l'agence architecturale L'Atelier du Lieu essaie d'intervenir. Ils ont par exemple convaincu les autorités publiques à Nantes de réhabiliter deux bâtiments d'habitation social avec de grands balcons. Les balcons qui ont aussi pour vertu de nous relier un petit peu plus à la nature, de nous donner envie en tout cas d'être moins casaniers, nous rendre plus sensibles au chant des oiseaux par exemple, permettre de mieux vivre les confinements quand il y en a ou encore les pics de chaleur, et incite aussi à végétaliser cette petite partie de notre habitat, ce qui n'est pas sans conséquences positives sur la qualité de l'air en ville ou la lutte contre le changement climatique. Si tous les balcons d'immeubles devenaient des jardins suspendus, cela changerait totalement, et oui, l'aspect de nos villes.
Merci Fanny Agostini, notre planète tous les matins sur Europe 1. À demain Fanny. 8h42, Julie s'est déjà installée, Nicolas Canteloup arrive pour la revue de presque.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Et oui, bonjour ma chère. Je rigole encore de Julie, pardon. On est bon copain. Ah oui, bonjour Julie.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer. L'info du jour, c'est Jean Castex qui était sur Twitch hier soir. Alors, suspense, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes vont sécher leur cours pour venir applaudir le Premier ministre devant Matignon ? On ne sait pas. Est-ce que vos enfants vont coller un poster de Jean Castex dans leur chambre ? C'est la véritable inconnue. Jean Castex est-il devenu l'idole des jeunes ? Réponse aujourd'hui. Jean Castex était donc hier à 18h30 sur Twitch avec Samuel Etienne, juste après l'heure du couvre-feu. Ouais, ça a dû lui faire du coup bizarre aussi à Samuel Etienne d'avoir Jean Castex obligé de dormir chez lui. Je l'aurais pas aimé. Bah oui, parce qu'il a respecté le confinement, il est parti.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est un bon citoyen, Samuel Etienne. Allez, l'autre info.
Sans
le pyjama.
On a l'image.
L'info du jour, c'est le Paris Saint-Germain qui a perdu contre le FC Nantes, 19e du championnat. Et voilà encore l'effet Domenech, à peine viré, déjà une victoire.
Oh, c'est une vacherie, allez. Oh.
Et ouais, une victoire contre le champion titre. Bravo, Raymond. Allez, tiens, pendant le match, deux joueurs parisiens ont été cambriolés. C'est bien la preuve qu'il fallait reconfiner Paris. Sans le droit de sortir, le PSG ne se faisait pas humilier au Parc des Princes et personne ne pouvait entrer chez eux par effraction. Et oui, il faut écouter les médecins des fois.
Hein,
et oui, c'est vrai. Ah, attendez, on me parle dans le casque. Ah merde.
Oh. Quoi ?
Non.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, on m'a dit que j'étais cambriolé pendant la matinale.
Oh non, arrêtez.
Mais les cambrioleurs ont trouvé qu'une trousse à outils et deux vieux tournevis et un joint de 14. Quand je dis joint de 14, c'est pas la drogue, hein, c'est le joint d'un joint de plombier. Oui, je voudrais m'excuser auprès des cambrioleurs. Oui, c'est vrai que j'ai pas renégocié encore mon contrat avec Europe 1. Il y a que dalle chez moi. Faut attendre un peu, les gars.
Ah, c'est pour ça, la maison
vide. Attendez, Mercato.
Merci, Mathieu. Allez, on revient sur la cérémonie des Césars. Pourtant, Marina Foïs l'avait promis, ce sera quand même une fête. Bonjour, Madame Bachelot.
Oui, elle est marrante, celle-ci. Ça va être une fête. J'ai vu la cérémonie à la téloche. C'était surtout ma fête à moi. Oh, mais alors, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai adoré la chronique de Nicolas Bétou qui évoquait les stars qui parlent de leur caca.
Ce matin,
oui. C'était drôle, oui. Dans le temps, les stars ne faisaient pas caca, c'était autre chose.
Tiens, d'ailleurs, comment vous la résumeriez, vous, cette cérémonie, Madame Bachelot ?
Oh, bah écoutez, vous savez, tous les ans, au César, il y a le passage chiant, chiantissime de 4 minutes où les intermittents viennent chouiner. Bon, bah là, cette année, ce passage-là, il a duré 2h40. Voilà, pendant vos gueules, les intermittents, bien fait pour vous.
Ils seront ravis. Mais c'est quand même étrange, une ministre de la Culture qui va même pas sur place.
Ah bon, c'est
oui,
étrange pour vous-même, Julie.
Bah oui.
Écoutez, il y a une bande qui te dit, je tutoie Julie,
hein, oui.
qui vient te dire, on va te maraver la tronche de 21h à 23h45. Tu y vas, toi ? Non ! Même moi non plus ! C'est le problème des bandes. Là, il y avait la bande des intermittents avec sa chef Corinne Mazero. Hein, ils étaient 350. Et en face, il y avait la bande de la culture composée de qui ? Ben de moi toute seule. Hein, 350 contre 1. Ben, faut pas y aller à la baston ! Non,
bon,
bah,
vous
non,
avez
non.
bien fait. Alors, merci, Roselyne Bachelot.
Oui,
ben, on a compris. Allez, un mot de cette info. Attendez. Lancez-le 3 mars sur moncommissariat.fr. L'interface comportement liée à un trafic de drogue a permis de transmettre 1000 signalements aux policiers. Bonjour Gérald Darmanin.
Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis de Tourcoing et que je suis ch'ti, mais que malheureusement, j'ai regardé les Césars et que je vais devoir verbaliser Madame Mazero, Corinne Mazero, et lui mettre une amende de 135 euros pour non-port du masque et surtout non-port de slip.
Oui, bon, ben revenons
à de
moncommissariat.fr qui a donc reçu 1000 signalements de dealers et qui a même permis la saisie de 90 kilos de cocaïne. C'est énorme.
Oui, tout à fait, c'est formidable. Mm. C'est un formidable résultat et je m'en félicite car c'est bonne idée. Faire appel à une des plus grandes passions des Français.
La lutte contre la drogue, bien sûr, c'est ça.
Ah non, pas du tout, la dénonciation. La dénonciation, le cafardage, le rapportage, la poucave, comme vous voulez. D'ailleurs, pour aller plus loin, je lance balance ton voisin. .fr. Drogue, violence, fausse carte vitale, même s'il a piqué un Mars à Monoprix, balancez-le. Faites-vous plaisir. Et nous, derrière, nous intervenons, bien entendu, dénoncer, tracer, verbaliser. C'est mon triptyque à moi. Voilà. Et n'hésitez pas à dénoncer Corinne Mazero si elle se promet toute une blessure.
Oh. Oui, d'accord. Merci Gérald Darmanin. Les premiers transferts de patients d'Île-de-France vers des hôpitaux de province ont donc eu lieu ce week-end dans des TGV médicalisés. Et on est en direct avec Jean Castex à nouveau. Bonjour Monsieur le Premier Ministre. Vous nous entendez ?
Mesdames et messieurs, chers passagers, chers papis et mamies, vous avez pris place à bord du TGV médicalisé numéro 6424 à destination de l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Nous desservirons les CHU de Massy, Tours, Angers, Limoges et donc Bordeaux, notre terminus. Un bar à médicaments vous accueille en voiture 14. Vous pourrez y déguster un large choix d'anticoagulants, d'analgésiques, d'antidépresseurs ou de vaccins. Nous vous rappelons que vos bagages et vos lits médicalisés doivent être étiquetés afin de faciliter vos transferts lors des correspondances. Vous ne voulez pas qu'on vous expédie par erreur d'importe où, je le soupçonne. La SNCF et le gouvernement vous souhaitent un agréable voyage et vous souhaitent aussi bonne chance.
Le train de Jean Castex est arrivé, il est avec nous. On va revenir avec vous, Jean Castex, sur les retards de livraison des vaccins. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Ah, et que faire, c'est un problème,
ben oui,
madame
oui.
Julie. Nous voudrions vous vacciner, vu qu'on vaccine à fond. Mais si on n'a pas les vaccins, on va quand même pas vous vacciner à l'eau plate. Non, c'est pas sérieux. Ce que les Français doivent retenir, c'est que sur ce coup, c'est pas notre faute. C'est la faute d'AstraZeneca.
Alors,
il faut le savoir.
On le rappelle, AstraZeneca, c'est un complexe anglo-suédois. Ils vous ont livré 30 millions de doses au lieu de 40. Alors, comment on change les choses ?
C'est très simple. On se fait respecter. Voilà. On met la pression. Je les appelle. Oui, faites passer grands yeux, genre... Non, si. Vous croyez quoi. Non. Bah, écoutez, je vais les appeler tout de suite, là, les AstraZeneca.
Ah, bah, d'accord.
Ça sonne.
Allô, oui, c'est Jean Castex au bout du fil. Oh merde.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est une hôtesse, oh là, une hôtesse suédoise au téléphone. Vous parlez pas suédois, madame Julie?
Ah non, non.
Non, comme vous êtes blonde, je me disais.
À tout hasard.
Alors, attendez, je me lance. Alors, c'est Jörg Castex. Chris Pauls.
Non.
Qui a Greta Thunberg.
Non, mais attendez.
J'ai rien d'autre, hein, suédois.
Mais en anglais, parlez anglais, Jean Castex. Tous les Suédois parlent anglais. Ils vont vous comprendre.
Ah oui, vous avez raison. Oui, bien sûr.
Allez-y.
It is Jean Castex. Where is Brian?
In the kitchen. No.
In the kitchen, oui. Where is the vaccine? Vaccine? Because I command the vaccine, hey, I have no vaccine. You for the bouge, se bouger, because papy et mamie bientôt capote.
Ah, bon, je crois qu'ils ont tout compris là. Hein. Merci. Bah, attendez, l'Irlande, l'Islande, le Danemark suspendent la vaccination avec AstraZeneca à cause du risque de thrombose et pas la France. Alors, dites-nous, Jean Castex, pourquoi pas la France?
Alors écoutez, madame Julie, j'aimerais citer un grand nom, Yvonne Mirabel.
Qui? C'est une épidémiologiste?
Non, c'est ma grand-mère. on avait, vous savez, nous n'avions pas beaucoup de moyens à la ferme. Et quand j'étais petit, je vais vous faire une confidence, je ne raffolais pas des salsifis. Et mamie Yvonne me disait, il n'y a que ça, tu finis. Voilà. Et bien, le vaccin AstraZeneca, c'est comme les salsifis de mamie Yvonne. En France, on n'a que ça, donc on finit, voilà.
Bon, bah, on a compris. Allez, merci à vous.
D'après.
Samuel Etienne, recevez donc Jean Castex. Encore lui, c'est la star de cette chronique hein, ce matin. C'était sur la chaîne Twitch. L'exercice n'a pas passionné les foules. Il faut dire que le Premier ministre n'a répondu à aucune des questions des internautes. Bonjour Samuel Etienne.
Bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour à tous les internautes, c'est Samuel Etienne pour votre revue de presse matinale. Je suis un peu l'ami du petit déjeuner, vous l'avez compris, l'ami décoré, ravi de vous retrouver ce matin autour d'un café, bien sûr d'un croissant, pour un petit débrief de l'interview de Jean Castex hier. Qu'en avez-vous pensé? Réagissez. Ici, on joue, vous l'avez compris, au FC franchise, au Racing Club de l'honnêteté, à l'Olympique, fais péter ton opinion. On attend Julie, et oui, en attendant, Jean Castex, oui, n'a pas fendu l'armure. Décidément, chaque fois que nous voulons nous parler, allô.
Oui, bonjour, c'est Étienne, c'est Nicolas Sarkozy. Non, je voulais savoir si je pouvais venir dans votre émission, parce que j'ai... Oui, coupe, arrête, Carlita, je vois le téléphone. Parce que j'ai vu, il y a plein de questions, et l'invité, il répond aucune d'entre elles. Bon, ben moi, de ne pas répondre aux questions qui fâchent, mais, et que ça passe comme ça, tout crème, moi j'aime bien l'idée, ça me reposerait.
Merci, Nicolas Sarkozy, mais... Ah, pardon, excusez-moi.
Ouais, allô, Samuel. Oui, c'est Marco. Hein. Oui, Marco Fogiel. Alors, il fait moi le malin, le roi le roi du web. Sa webcam, là, sa cafetière et ses croissants, là. Hein? Franchement, c'est des scores d'audience qui sont décroissants pour le coup.
Oh,
croissant.
Jeu de mots, magnifique.
Ah, il a le Premier ministre, il fait moins qu'avec Hollande. Oh, le nul. Ça passe vite, la mode. Hein? 80 000. C'est ce qu'on fait, nous, sur BFM, la nuit, pour les rediffusions des chroniques micro-entrepreneuriales de Pierre Kupfmann. Ah, la roue tourne. C'est qui ton prochain invité? Macron? Tu prévois combien de spectateurs? 39?
Bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver sur Europe1.fr. 8h57, Philippe Vandel est déjà là, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1.
Bonjour Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu. Notre info média du jour, un livre passionnant sur le processus, comment on écrit une série, crée une série. On
vous avez le mode d'emploi?
Exactement. Le mode d'emploi, il fait quand même 295 pages.
Ouais, enfin ça vaut le coup.
Et c'est écrit petit et s'explique que quiconque veut écrire une série termine en dépression. On sera avec l'auteur, c'est Pierre Langlais, c'est Fanny Herrero qui a créé 10% qui raconte ça. Au sommaire également, est-ce qu'on peut rire de tout? Réponse demain soir, France 2 qui relance la grande soirée Rire contre le racisme. Nous serons avec les présentateurs, la comédienne Nadège Beau son Diane et l'humoriste Donnell Jacksman, et puis c'est elle qui chantait « Juste quelqu'un de bien ». Enzo.
C'est ça ?
Elle sera avec nous. Gagné.
Vous me faites peur. Des petits quiz à la fin comme ça pour
le
rester
petit
vaillant.
Quiz, voilà.
On reste vaillant, on reste réveillé. On continue d'écouter Europe 1 toute la journée, notamment Culture Média de 9h à 11h. Moi, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.